juste un message, un petit message pour Pâques. J'aimerais aujourd'hui, en réponse à ce que Christ a fait pour moi, en réponse à la résurrection, j'aimerais affirmer une chose. Et peut-être aujourd'hui, je vais beaucoup faire une prédication, je vais faire beaucoup de jeux. Mais j'aimerais que le jeu que je ferai soit votre jeu à vous chacun. Ne regardez pas en disant, oh tiens, c'est Gaston qui parle, là, donc il parle de lui-même, là. Il se met en valeur, il se met en disant, ouais, c'est Gaston. Non, regardez le jeu comme étant votre jeu. Comme si c'était vous qui mettez vous-même les mots à ce que je dis. Comme si c'était vous-même qui faites aussi le chemin avec moi, dans ce sens-là. Le message que je voudrais donner ce matin, c'est, le titre c'est « Je vis pour le ressusciter ». Je vis pour le ressusciter. Pâques est la fête la plus importante des chrétiens, et parce que nous fêtons le ressuscité, l'agneau de Dieu qui a accompli parfaitement le plan du salut, et la résurrection est la preuve du succès de ce plan. Sans la résurrection, il n'y a pas de raison de croire en notre salut. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 15, du verset 12 au verset 20, nous allons lire là quelques lignes. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, la conséquence est grave, grave. Votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est cette vie, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors l'affirmation de Paul. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. La résurrection, c'est une réalité. C'est un fait. Et c'est un fait important. Parce qu'il marque, le début du christianisme. Il marque la réalité de l'évangile, en quelque sorte. Non seulement la résurrection est un fait indiscutable pour Paul, et je vous fais grâce de toute la partie précédente où il a démontré, à travers les apparitions de Jésus, que Jésus est vraiment ressuscité. Non seulement pour lui c'est un fait, donc une réalité indiscutable, mais les autres faits bibliques aussi le montrent. On l'a évoqué rapidement. J'ai cité deux faits. Un, le tombeau vide. Vous avez vu que j'ai mis exprès dans le texte de Matthieu 28 cette allusion où les soldats sont allés dire aux pharisiens, aux sacrificateurs, écoutez, il n'y a plus personne là-bas. Hein. Le tombeau, il est vide. Hein. Et vous avez vu que par peur que la nouvelle s'annonce, ils ont corrompu les soldats en leur disant, surtout ne dites pas qu'il est ressuscité. Dites qu'ils ont volé son corps. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que ce que Jésus a toujours affirmé, à savoir qu'il ressuscitera le troisième jour, ils avaient peur que le peuple dise, mais amen, c'est fait, il est ressuscité. Ils avaient peur de ça. Le tombeau vide est indiscutablement un fait qui montre la réalité de la résurrection. Un deuxième fait, c'est le changement radical du comportement des disciples. Souvenez-vous à Pierre timoré, effrayé, qui rase les murs, qui suit Jésus de très loin, qui renie Jésus malgré les avertissements de Jésus. Et les autres qui sont dans la nature, on n'en entend plus parler. désespérés, découragés. Pour eux, l'aventure était terminée. Regardez-les après. Ils sont courageux. Ils sont courageux. Au Sanhédrin, ils osent encore évangéliser, parler de Dieu. Regardez-les plus tard. Un après l'autre, ils vont mourir, martyrs. Ils vont faire les prisons, ils vont recevoir des coups de bâton. Et on va les mettre en croix pour certains. On va les maltraiter. L'église de Jérusalem qui commence, c'est une église persécutée à fond. Tellement persécutée qu'ils sont obligés de vivre ensemble. De partager tout ensemble parce que ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. D'où leur est venue cette force de pouvoir, de la peur qu'ils avaient avant, être devenus aussi courageux pour l'évangile. C'est parce qu'il y a eu la résurrection. S'il n'y a pas eu la résurrection, il n'y aurait pas eu la Pentecôte. La résurrection est capitale. Elle est fondamentale. Grâce à la résurrection, la vie, notre vie, est possible. C'est ce que Paul dit. Nous pouvons ressusciter aussi. Nous ressusciterons aussi. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Et j'aimerais partir aujourd'hui, ce matin, de ce court passage de Galates chapitre 2, verset 20, pour parler de ce sujet que je voudrais partager, mais très, 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 très sommairement avec vous. Galates chapitre 2, verset 20. C'est un des versets que j'aime le plus parce que j'aimerais tellement que ça soit mon verset qui parle de moi, de ma vie. C'est comme ça que j'aimerais que ma vie soit. Bon, je ne dis pas qu'elle est comme ça. Je dis, ça c'est ce que je souhaite. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis pour le ressusciter. L'un des impacts de la résurrection est de faire de moi non seulement un citoyen du royaume des cieux, non seulement un membre de la famille du Père Céleste, nous l'avons vu à travers le texte d'Éphésiens, chapitre 2, mais un des effets, c'est de faire de nous aussi une habitation spirituelle de Jésus-Christ. N'est-ce pas que Dieu lui-même dit, c'est Jésus qui disait déjà ça, n'est-ce pas, que si nous croyons en lui, le Père et lui viendront en nous et feront de nous ils feront de nous leur demeure. Ils habiteront au-dedans de nous. Christ en moi. Christ dans ma vie. Dans mon cœur. J'aimerais peut-être, à la lumière de ce texte, tirer deux conséquences, deux choses que cela implique. Christ en nous, dans notre cœur. Par rapport à cette vie pour le ressusciter. Premier point, Christ vit en moi. Et le deuxième point, ça va être ma vie est vécue dans la foi en Christ. Premier point, Christ vit en moi. Dès que je deviens chrétien, Christ vit en moi. Comment est-ce que je peux le savoir? Est-ce qu'il y a des trucs qui me font sentir que Christ vit en moi? Est-ce que je deviens comme un robot téléguidé par Christ? Est-ce qu'il y a des voix que j'entends qui me disent, maintenant, allez, dis, parle comme ça. Allez, parle comme ça, Samuel. Et puis, lui aussi, tais-toi, ne lui dis pas, ne lui dis rien. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que je commence à voir des trucs que tout le monde ne voit pas? Oh, je vois la vie d'Aurélie. Non! Il n'y a pas tout ça. Lorsque Christ vit en moi, je le sais simplement parce que sa parole qui le dit. Je le sais parce que je crois en lui. Après, il se passe des choses. Après, il y a des réalités que je vis. Après, il y a un ensemble de choses qui paraissent trop, trop fortes pour être une simple coïncidence. Des choses qui finissent par être tellement incroyables que ça peut être le hasard. Et puis, quand je prie, il y a des choses que j'ai des exaucements de prière, une fois, deux fois, trois fois. Après la dixième fois, je dis, mais si c'est pas Dieu, alors je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais au départ, quand Christ vient en moi, Il ne s'agit pas de faire quelque chose que je sens, que je sais. Mais par la foi, je vis une relation avec Dieu. Comment suis-je quand Christ vit en moi? Comment est-ce que je vis cela? Eh bien, je vous propose une petite piste. Je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose que je vais réfléchir en profondeur, parce que ça touche à des questions de l'identité du chrétien, etc. Je ne vais pas toucher à tout ça, mais j'aimerais simplement trouver des pistes, une petite piste, pour réfléchir à comment suis-je quand Christ vit en moi. J'aimerais que nous lisions Romains au chapitre 6, du verset 4 au verset 10. Regardez, c'est un texte que nous utilisons beaucoup pour l'enseignement des baptisés, mais je pense qu'il y a vraiment là des vérités qui nous aident. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même vous aussi, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Christ vivant en nous, comment est-il? C'est une réalité que j'accepte par la foi, que je reconnais par la foi. Ma vie doit porter la signature de Jésus. Partout dans ma vie, on doit sentir le règne de Dieu. Tout ce que je fais, c'est ce qu'aurait fait Jésus. Je marche sur son chemin. Par le Saint-Esprit, il me transforme progressivement. Mais pour cela, je dois laisser Christ vivre dans ma vie. Le laisser prendre les commandes de ma vie. Donc, comment être avec Christ dans ma vie, c'est simplement me conformer à sa volonté qui est dans la Bible. Se conformer à sa volonté. Vouloir faire ce qu'il me demande. Et demander de l'aide pour qu'il fasse en moi ce qu'il veut réellement réaliser. Le laisser me transformer. Je suis parfois, moi, l'obstacle de ma propre transformation. Mes idées, mon discours, mes pensées, l'état de mon cœur, les choix de ma vie, ce que je regarde, ce que j'entends, ce que je vois. Toutes ces choses peuvent être des obstacles pour que le Seigneur me transforme. Mais lorsque je me soumets à lui, dans la volonté que toutes ces choses-là contribue à ce que lui puisse me marquer dans la vie. Alors oui, Christ va vivre en moi. Comment laisser Christ prendre les commandes de ma vie? On revient encore avec le texte de Romains, chapitre 6 encore, du verset 11 au verset 13. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne point donc. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Comment laisser Christ prendre les commandes de ma vie? C'est en combattant le péché sous toutes ses formes, en refusant le règne du péché dans ma vie. Parfois, on croit que c'est dur de combattre le péché. Mais je n'ai pas à me battre contre le péché. J'ai à me livrer devant Dieu. J'ai à dire, Seigneur, moi je ne veux pas. Aide-moi à ne pas vouloir. Bien sûr, si je commence à dire par ma propre force, je vais gagner contre le péché, je vais brillamment échouer. Mais si je compte sur Dieu, si je me cache derrière Dieu, exactement comme cette personne qui fuit la bagarre contre quelqu'un de plus fort que lui, qui va se cacher derrière quelqu'un de plus fort que son adversaire, eh bien, il a un peu de chance de s'en sortir. Combattre le péché sous ses formes, s'offrir à Dieu comme un instrument consacré. Ce texte évoque l'idée que ma vie doit être une vie que je mets au service du Seigneur, comme un instrument pour faire sa volonté, pour faire sa justice, pour être là pour faire quelque chose pour Dieu. Et cette tâche est à notre portée. Nous pouvons le faire. Nous en sommes capables parce que Dieu nous a rendus capables en Jésus-Christ. La seule chose qui nous manque, c'est parfois de s'arrêter de dire, est-ce que j'ai la volonté pour ça? Deuxième chose, ma vie est vécue dans la foi. Dans la foi à qui? Dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est la deuxième, pour moi, c'est la deuxième conséquence, la deuxième implication. Comment vivre ma vie dans la chair? Comment vivre ma vie de tous les jours? Confronté aux tentations, aux épreuves de la vie, confronté aux autres. Et les autres, il n'y en a pas que les gentils, hein? Il y a des terroristes aussi. Comment vivre avec, en regardant ces gens-là en face et en les aimant, quand vous perdez votre enfant, quand ils sont à la base de la mort des gens que vous aimez? Hier, j'étais un peu perturbé par tout ça. Et je suis tombé sur une vidéo, c'est écrit « Vidéo magnifique d'un chant chrétien en arabe ». J'ai cliqué pour écouter le chant. Il chantait « Entends mon cœur » en arabe. J'ai été ému. Et pendant 30 minutes, j'ai écouté des chants qui se suivaient, des chants orientaux. J'ai dit « Waouh !» Ces gens-là chantent pour Dieu. Et c'était clair, ce n'était même pas des chansons où c'est à moitié chrétien, ce n'est même pas des chants catholiques, c'est vraiment des chrétiens évangéliques comme nous. Et des paroles qu'ils disaient, il y a une dame là qui s'est convertie, donc une dame musulmane qui s'est convertie au christianisme et qui est chanteuse et qui chante des chansons où elle parle de sa souffrance. Et vous savez, il y avait des chansons où ils chantaient pour encourager les autres Arabes à tenir face à la persécution de leur famille, de leur entourage. J'en ai été ému. Je me suis dit, mon Dieu, parfois nous croyons que ça, c'est des gens à maudire. Mais qu'est-ce qui ne nous dit pas que là aussi, il y a un chant pour le Seigneur? Qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'il y a aussi des gens là-bas que le Seigneur veut gagner en Christ? Alors, ça change tout. Ça change tout. Comment vivre ma vie face à toutes ces réalités-là? Eh bien, le texte me répond dans la foi. En ayant la foi. La foi, c'est-à-dire la confiance. La confiance en Dieu. La confiance que Dieu va me diriger, que Dieu va me montrer, que Dieu va m'aider, que Dieu va me conduire. L'attente d'être aidé par lui, d'être guidé par lui, d'être dirigé par lui dans ma vie, dans les choix de ma vie, dans tous ces combats que j'ai, m'attendre à ce que Dieu va faire quelque chose pour moi. C'est la foi, ça. Je suis pas là à dire, ouais, je sais déjà d'avance, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Parfois, le chrétien, il est dans des situations où, waouh, je fais quoi maintenant là? Je fais quoi? La foi, c'est dire, ok, je ne sais pas qu'est-ce que je fais, mais Dieu me le montrera. Dieu m'aidera. Je trouverai le chemin avec mon Dieu. Dans la foi au Fils de Dieu. Qu'est-ce qui peut favoriser cette foi-là? Qu'est-ce qui peut faire que cette foi-là soit vivante? C'est le fait que je crois en quelqu'un qui m'a aimé. Qui m'a aimé. C'est quelqu'un qui m'aime. Donc, il ne peut pas ne pas me répondre. Il ne peut pas ne pas être préoccupé par ma situation. Il ne peut pas ne pas rester insensible. Il m'aime. Et il m'aime au point de s'être livré lui-même pour moi. D'être mort à la croix pour moi. Et ça, c'est la force de ma foi. Je ne crois pas en quelqu'un d'inconnu. Je crois en quelqu'un que je connais, qui m'aime et qui a déjà prouvé son amour en mourant pour moi à la croix. Voilà. C'est ce que je voulais ce matin partager avec vous pour nous encourager à ce que notre vie soit une vie avec une dimension nouvelle parce que Jésus est ressuscité. La résurrection ne doit pas nous laisser vivre une vie religieuse. La résurrection doit nous amener à vivre une vie de relation, d'intimité, de proximité avec Dieu. À ne pas être quelqu'un qui regarde les autres vivre, qui accompagne les autres qui vivent leur vie chrétienne. Je suis là, je les accompagne. Non, la résurrection doit être là pour me dire, c'est à moi aussi d'être dans ce mouvement. C'est à moi aussi de vivre ma vie pour Christ, pour Jésus. Pas seulement pour moi, mais pour Jésus aussi. Voyez, décidément, avec la résurrection, la vie du chrétien est une vie nouvelle dans tous les sens. Une vie remplie de Jésus. Une vie remplie de Jésus jusqu'à déborder vers les autres et susciter chez eux la même transformation spirituelle que moi j'ai eue. Si nous pouvons déborder de Christ dans nos vies, ça sera plus qu'un témoignage. Et vous savez, on peut déborder de Christ pas seulement quand nous sommes heureux. Nous pouvons déborder de Christ dans la façon dont nous gérons nos souffrances, nos problèmes, dans la façon dont nous sommes face à nos défis. Nous pouvons déborder de Christ chaque jour de notre vie, dans la faiblesse aussi. Pas seulement dans la force, mais dans la faiblesse. Que dit Paul ? Que dit Paul ? Ma grâce te suffit. Je me glorifierai donc dans ma faiblesse. Alors, Pâques, mes amis, est un moment où nous avons adoré le Seigneur. Le Seigneur ressuscité. Adorer, j'aime bien ce mot, parce que je le prends dans le sens de ce que Jésus disait lorsqu'il disait « L'heure vient où les vrais adorateurs n'adoreront pas à Jérusalem ou en Samarie, mais adoreront en esprit et en vérité. » Soyons des adorateurs du ressuscité. Chaque jour de notre vie, débordons de lui. Laissons nos vies être rempli de lui, vivons sa vie à lui. Christ en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vivons dans cette foi à Jésus qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. Soyons reconnaissants à Dieu pour le don de son Fils. Et en réponse, vivons le ressuscité chaque jour. Et que les autres puissent dire, waouh! Cet homme, cette femme, il vit pour le ressusciter. Et qu'au fond de notre conscience s'élève très clairement cette réalité que je vis pour le ressusciter. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ta parole, pour ce que tu peux nous donner comme mot à dire, commentaire là-dessus. Seigneur, ce que je dis ne m'appartient pas, t'appartient à toi, et je voudrais que tu fasses le travail que toi tu veux dans les cœurs des uns et des autres, et dans mon cœur à moi, parce que tu dis qu'aucune parole qui sort de ta bouche ne revient à toi sans avoir produit les effets que toi tu as voulu. Puisses-tu visiter chacun de nous en ce jour de Pâques, et nous renouveler spirituellement, pour à nouveau continuer à vivre de nouveautés, en nouveauté de vie pour ta plus grande gloire. Au nom de Jésus. Amen.